Ouellet.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Je lui expliquais justement pendant la pause, j'asais avec notre chroniqueur, je disais, Colin, j'accumule tout le temps plein d'affaires sur ce qui se passe présentement à New York, mais avec l'actualité débordante et locale et nos histoires de Québec et de provincial et tout ce qui se passe au fédéral en Iran. On peut pas couvrir toute l'actualité, mais ça me fait tellement plaisir de prendre un moment de temps en temps pour justement aborder des sujets que j'ai pas le temps avec quelqu'un de compétent et de crédible. Ça va être le cas. Madame Catherine Loubier qui est au bout de la ligne. Bonjour, Madame Loubier, comment ça va?
Bonjour, ça va bien, vous?
Ça va très bien. Et en plus, je sais qu'on partage cet amour pour la ville de New York. Fait que ça,
oh oui.
Ça nous intrigue, on jette un œil tout le temps. On le sait que c'est pas dans nos centres de priorité, mais je trouve qu'en même temps, ça vaut la peine de regarder ce qui se passe là. C'est comme un, comment je dirais ça? C'est comme un laboratoire vivant.
Ouais, c'est vrai. Oui, en effet, un laboratoire vivant, c'est vrai. Mais je l'ai toujours dit, même quand j'étais déléguée, on essayait de résoudre des problèmes de politique publique importants, puis je disais toujours au gouvernement du Québec, mais pourquoi qu'on ne demande pas aux New-Yorkais comment ils ont géré ça?
Ah oui!
T'sais, ils sont 8,1, 8,2, 8,5 millions de personnes avec une population très similaire au Québec, mais sur une toute petite île de Manhattan à la ville de New York, puis aussi l'État, mais la ville, c'est le cœur de New York. Et on a fait des comparaisons souvent. On a consulté des décideurs à New York pour voir comment vous avez géré ça. Là, ça peut aller de l'informatique au vidange, à tout. Là,
puis ça l'a toujours été, là, hein, New York, depuis le début, voir l'intégration d'une immigration de masse, comment on fait pour tout placer ça ensemble. Puis comme tu le dis, dans un petit carré de sable de rien. Donc effectivement, il y a des leçons à tirer de toute l'histoire de New York. Mais là, avec ce que New York est en train d'expérimenter, parce que je le dis, je pense pas que ça a été essayé ailleurs. Je sais que des villes, puis la majorité des villes ont une tendance un peu à gauche, mais là, on est dans quelque chose de... Tu sais, j'écoute le maire, Mme Dany, gérer, exemple, son affaire de taxes, ou plus récemment encore, l'histoire des épiceries communautaires. C'est-tu quoi, Catherine? Avant de poursuivre, je veux juste qu'on écoute ensemble un petit extrait de Fox News, où on parle des épiceries subventionnées, donc des épiceries d'État de Mme Dany. Voici ce que ça donne.
This first store is going to cost $30 million. That's nearly half of the $70 million budget that Mayor Mamdani has proposed for all five city-run grocery stores. He announced this first one last night at his 101st day celebration. The store is going to be located in East Harlem in La Marqueta, and the plan is for it to be open next year.
Juste traduire, le maire Mamdani s'était donné un budget de 70 millions pour ouvrir 5 épiceries à la ville, donc qui appartiennent à la ville de New York. Et là, ils sont en train de faire la première, ils vont péter le 30 millions. C'est visiblement, dès le départ, il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
Oui, donc la ville de New York, c'est extraordinaire, mais là, on va en parler pour les choses à ne pas faire. Hein. Et Mamdani, le maire de New York, a annoncé ça aux 100 jours. Comme maire de New York. Donc, c'est la chose la plus importante pour lui, puisqu'il n'a pas été obligé, il n'a pas été capable de donner du transport en commun gratuit et autres promesses qui vont faire défoncer un budget qui est déjà déficitaire de la ville de New York. Donc, effectivement, 5 magasins, 70 millions, et là, il annonce un premier magasin qui ne sera pas prêt avant 3 ans. Oui, là, il y a quelques aspects dans ça. Premièrement, le prix. Quand je regarde le prix, j'ai consulté pas mal de sources. D'abord, il y a le loyer. Hein, mais là, lui, c'est une construction neuve. Donc, les travaux, le stock initial dans l'épicerie, les permis, les assurances, les salaires, la trésorerie, tout ça. Et si on construit une épicerie de gros luxe, là, ça peut monter peut-être à 1 million. Et selon toute vraisemblance, une épicerie modeste sera à peu près 250 000. Et là, on parle de dollars US. Et donc, comment il peut arriver à 30 millions, je ne sais pas. Surtout que la Marqueta, dans East Harlem, au coin de la 111e et Park, s'il y en a qui ne sont jamais allés, c'est pas un endroit où on va construire quelque chose comme sur Fifth Avenue. Là,
on n'est pas dans la richesse. Là.
Oui. Et il a augmenté les taxes foncières des épiciers qui sont déjà là de 10 %. Donc, il y a 5 épiceries dans un rayon de quelques rues de là où il a identifié son terrain pour sa folie d'épicerie, là, appelons-la comme ça. Et donc, c'est comme une véritable claque d'en face pour les épiciers qui sont déjà là. Le président de l'Association des supermarchés de New York, Anthony Penna, lui, a dit « J'ai failli tomber quand j'ai vu le chiffre de 30 millions. » Dit même un magasin d'haut de gamme gastronomique, ça ne coûterait pas autant pour construire. Et puis, il y a différentes réactions des propriétaires d'épiceries dans le Bronx, dans Harlem, tout autour. Et il y a une association aussi des bodegas puis des petites épiceries de la ville de New York. Et son propriétaire d'une épicerie et le vice-président de cette association-là, il dit que c'est très injuste d'utiliser l'argent des contribuables collecté de travailleurs qui travaillent fort à tous les jours pour investir là-dedans, pour venir compétitionner avec une épicerie subventionnée, nos épiceries privées. C'est contre l'esprit entrepreneurial de New York.
C'est contre l'esprit américain. T'sais, carrément, là, on est dans quelque chose de... Nous, à la limite, je te dirais, bon, on en a vu d'autres, mais aux États-Unis, c'est sûr que ça passe pas. Et j'avais pas vu le bout. Tu m'apprends là que... Il a augmenté le fardeau fiscal en plus des
épiceries privées. Oui, puis là, il fait juste commencer, là, parce que comme je l'ai expliqué, les taxes foncières, il peut faire ce qu'il peut faire avec l'autorité qu'il y a d'une ville, mais pour le reste des taxes, il faut attendre que la gouverneure ou un autre gouverneur soit élu dans l'élection qui s'en vient pour l'État de New York. Et donc, il y aura d'autres folies de ce genre-là là, sur lesquelles ils vont se combiner pour mettre du fardeau fiscal sur les entrepreneurs puis les gens les plus riches de la société. Donc, une affaire, ça fait réagir à New York énormément. Ça a fait le front du New York Post, évidemment. Je pense que les gens, le sentiment que j'ai, puis j'étais à New York récemment, ils ne veulent pas en parler. Ils se disent... Ce gars-là ne restera pas là longtemps. S'il avait voulu faire de ses 100 jours pour le célébrer quelque chose de plus communiste, socialiste que ça, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Ouais. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Dire à ses électeurs, n'oubliez pas, là, tout va être gratuit pour vous. Wow. Ça commence. Regardez, l'épicerie va être gratuite. T'sais, le transport en commun va être gratuit. Le problème des socialistes, comme le disait Margaret Thatcher, c'est qu'à un moment donné, il n'y en aura plus d'argent. Et donc, c'est vraiment... c'est répugnant. Franchement, c'est répugnant. Puis, comme je disais, les New-Yorkais ne veulent pas en parler. Ils ont d'autres affaires à faire. Ils sont occupés à faire de l'argent, à essayer de réussir avec leurs affaires. Ouais. Tu parlais des immigrants. Il y en a tellement qui ont des petites business. On le dit, là, puis je termine là-dessus pour New York, mais tu sais, les fameux délits à New York, là, ces endroits où tu rentres puis tu peux tout trouver. Les gens sont gentils. Tu te fais faire un sandwich ou deux œufs bacon, ça coûte pas grand-chose. C'est une mini-épicerie. Il y en a tellement qui ont fermé à New York depuis les dernières années, surtout depuis COVID. Là, ça va être un autre coup dur pour eux autres. Et c'est beaucoup des immigrants, on se le dit, là.
Puis je veux faire le... Ben oui, tu sais, voilà. Puis je veux faire le switch vers notre prochain sujet en gardant un pied, juste un orteil peut-être à New York, là, parce que le maire Mme Dany qui a fait campagne en disant « Eat the rich », pas « reach », pardon, « tax the rich ». Moi, c'est un peu dans la même mouvance, là. « Eat the rich »,« tax the rich ». Et là, on apprend que finalement, il y aura une augmentation de taxes foncières pour tout le monde. Là, on parle d'un 10 % d'augmentation dans un endroit qui est déjà très chérant là, à vivre, New York. Donc, tu le disais, il attend l'accommodation de la gouverneure, qui sera peut-être un autre, mais il n'y a pas cet argent-là. Et là, il y a un exode et c'est documenté. Les gens quittent. Mme Dany, d'ailleurs, commence à faire des menaces. Et on a entendu ici quelque chose qui m'a fait penser à ce qui se passait aux États-Unis, pas plus tard qu'en fin de semaine. Je te fais écouter l'extrait canadien. Donc, au Congrès du Parti libéral, le président du parti, Patrick Pichette, a dit ceci.
We as Canadians have subsidized my education to the tune of, you pick the number, half a million? Right, 500,000, and if it's a graduate student, go up, right? 30,000 TN go to the U.S. every year. You want to save yourself $5 to $10 billion? Shut the TN program. and then keep them in, or make them pay their $500,000 so that if they leave, I'm okay with that. You want to go to the U.S.? Give me back my money.
Le gars, en résumé, dit on paye très cher pour éduquer nos enfants qui s'en vont travailler aux États-Unis ou ailleurs. Donc, d'ailleurs, il a failli dire keep them in Canada, là, quasiment de force, mais il a dit non, finalement, chargeons-leur 500 000 piastres. Ça ne sort pas de nulle part, cette idée-là, Catherine.
J'ai tellement de problèmes avec tout ce qu'il a dit.
C'est fou, hein?
Tellement de problèmes. Écoute, premièrement, c'est pas parce que 10 ans, 15 ans de politique libérale ont plongé le pays dans un marasme économique que la solution, c'est de fermer nos frontières comme un pays autoritaire.
Mais la liberté de mouvement, partir, Catherine, t'es à base.
C'est complètement ridicule. Deuxièmement, M. Pichette a profité du fait qu'il y avait un TN pour aller aux États-Unis travailler. Ouais, ouais. Je le fais remarquer. Ouais. Puis aujourd'hui, il vit à Londres, en passant. Ouais, hein? Ouais, ouais. Et donc, pas de leçon à recevoir de ce gars-là. Il a perdu tout mon respect. Et c'est complètement loufoque. Tu sais, si au moins on disait, si vous êtes éduqué au Canada et que vous voulez rester au Canada puis venir travailler dans un poste pour contribuer, tu sais, à la haute fonction publique, pour, tu sais, on va vous embaucher, puis, tu sais, il y aurait peut-être un moyen. Premièrement, les gens qui étudient au Canada à l'université, il y a quand même un frais, là. C'est moins élevé qu'aux États-Unis, bien sûr, mais tu sais, on s'entend-tu que, comme moi puis bien d'autres, on est parti de rien puis on a payé notre dette d'université si on a eu la chance d'y aller, premièrement. On l'a payé, notre dette, c'est pendant des années. Donc, il y a tellement de choses qui sont pas correctes.
Et c'est à l'inverse. Si les gens quittent, c'est parce qu'il y a quelque chose ici.
On n'enferme pas nos talents. On s'arrange pour en attirer. Puis comment on en attire? C'est en ayant un pays qui est bien géré, des frontières qui sont bien gérées, que ce soit alléchant d'investir des sommes du secteur privé au Canada. On est dans un marasme économique. On n'a jamais vu aussi peu d'investissements étrangers dans nos affaires, tellement que même nos fonds de pension investissent la plupart de notre argent aux États-Unis, tellement que c'est pas intéressant chez nous. Donc, je vais arrêter là-dessus, là, mais tu sais, il y a une...
Catherine? Oui? Tu as dit que tu allais arrêter là-dessus. Ben il le faut parce que là, JC, moi, tantôt, en ouverture, me dit qu'il était rendu souverainiste à fond la caisse.
Non, moi, je vis. C'est pas mon pays, ça.
Canada, là.
Moi Catherine, là, j'essaie de me convaincre depuis Justin Trudeau que c'est mon pays. Puis il faut que je me tape 4 ans de Mark Carney. Non, je suis plus capable. Je veux pas embarquer sur cette discussion-là parce que j'ai l'impression que je vais parler de ça à journée longue. Là.
Non, mais il y a sûrement un message d'espoir.
Non, mais c'est important parce qu'il faut aussi être engagé et puis empêcher que des folies comme ça se réalisent.
On en parle à tous les jours. Puis je veux dire, les Québécois adorent Mark Carney. Je sais pas quoi te dire.
Je le sais, mais regarde, on va regarder aussi les conséquences de gouvernements qui dépensent à profusion. Et qui finissent par ne pas... Écoutez, les gouvernements qui sont un frein d'abord aux entreprises, avec trop de bureaucratie, avec le poids des gouvernements, avec bien des idées puis bien des grands projets, mais il n'y a jamais rien qui se réalise au bout de la ligne parce qu'ils sont dans le chemin des entrepreneurs qui veulent réussir. C'est le cas dans certains États en ce moment qui ont des propositions de taxer davantage les créateurs d'emplois. Les milliardaires, c'est pas tous, ils viennent pas tous du côté du diable.
Non, hein? Non.
Ils ont quand même fondé des entreprises. Beaucoup d'entre eux ont parti de rien. Ils sont ceux qui font rouler l'économie, qui donnent des emplois. Et là, dans les États bleus, qu'on appelle les États démocrates, Californie, New York, l'État de Washington, le Massachusetts, le Michigan, le Connecticut, ils ont décidé que les crises budgétaires qu'ils ont eux-mêmes créées, qu'ils se sont auto-infligées, comment ils vont régler ça? Ils vont puiser plus d'argent dans les poches des résidents les plus productifs. Ouais. OK?
Donc, ils veulent sacrer le camp.
Ça sent Patrick Pichette, là.
Oui.
Et si ces résidents décident de partir, ils vont leur imposer une taxe de sortie. OK?
C'est incroyable.
Et moi, je le vis, là. Je le vis. New York, Californie, c'est la même chose. Il y a déjà des taxes de sortie, il faut le dire. Par exemple, si une résidence en Californie de plus de 5,4 millions, puis bon, vous allez penser, c'est beaucoup, c'est pas tant que ça ici.
Oui, c'est ça. Hein?
Il y a une taxe de 4 % qui va être imposée si tu veux vendre ta maison. Donc, en plus de tous les autres frais, ça fait en sorte que la vente d'une maison, ça mange tout ton profit. Ouais. Pas seulement ça, si tu essaies de partir des États bleus où ils veulent te taxer davantage, ben ils vont créer des subpoenas pour avoir toutes tes factures de cellulaire et tes comptes de banque pour prouver le plus longtemps possible que tu n'as pas quitté pour continuer à te taxer dans cet État-là. Parce que ces gens-là partent où? Ils partent dans des États où il n'y a pas de taxes.
C'est des taxicomanes. C'est fou, là.
En Floride, Texas, Nevada, Tennessee, il n'y a pas de taxes d'État. Pourquoi? Parce que on se retrouve avec des politiciens qui arrêtent de créer de la bureaucratie puis des nouveaux programmes qui ne donnent pas de service aux gens, pas de service visible aux gens et qui sont des repoussoirs finalement parce que les taxes n'en finissent plus d'augmenter. Donc, il y a en ce moment en Californie une telle proposition d'imposer 5 % sur la valeur pour les milliardaires, sur la valeur totale. On parle pas juste là, de valeur de l'argent dans leur compte de banque. On parle d'une compagnie sur papier, ce qui n'a aucun sens. Donc, on pourrait, par exemple, avoir 2 millions de dollars en actifs liquides dans nos comptes de banque, mais une compagnie qui est valorisée à 100 milliards de dollars. Puis la Californie, ce qu'elle veut, c'est vous donner une facture, je dis la Californie, certains Californiens, de 5 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça fait? Les gens entendent parler de cette proposition-là qui doit ramasser 875 000 signatures pour être valide avant le 24 juin et qui sera incluse sur le ballot, sur le bulletin de vote à l'élection de novembre. Si elle obtient le nombre de signatures, elle sera incluse et les gens devront voter là-dessus. Ben, pour monsieur tout le monde, là, c'est une ligne dans un ballot. Ouais. Tu votes oui, c'est pas trop long. Là, t'sais. Et donc, à la lumière de ça, il y a de l'exode. Il y a de l'exode parce que c'est une saisie d'actifs déguisée en taxes. Ouais. Et je pense pas que ça va passer, là, si on prend l'exemple de la Californie, parce que le soutien est inférieur à 50 %. Même le gouverneur Newsom, pour une fois, est opposé à ça parce qu'il sait très bien c'est quoi les conséquences de ça. Mais le système politique américain fait en sorte que tu peux proposer groupe X là, de la société ce genre d'inclusion de questions-là dans le bulletin de vote. Mais ce n'est pas juste en Californie que ça existe. L'État de Washington, qui n'a jamais eu d'impôt sur le revenu dans son histoire, vient de voter une taxe de près de 10 % sur le revenu supérieur à 1 million de dollars. Ce n'est pas beaucoup, ça. Il y en a beaucoup qui n'en font pas 1 million de dollars. Mais ceux qui le font puis qui font rouler l'économie...
Ce n'est pas des ultra-riches, là. C'est pas...
Ben, écoute, puis même le projet de loi a été adopté par le législatif, puis le fondateur de Starbucks, M. Schultz, a annoncé qu'il allait déménager en Floride. Les chiffres sont incroyables. L'État du Michigan vient de faire la même chose à hauteur de 9,25 %. Wow. Pour les gens qui font un demi-million et plus. Et quand on regarde ça, tu sais... C'est un problème énorme. Si tu prends New York, les gens qui ont quitté New York, c'est à peu près 500 000 personnes en 2024.
C'est fou, hein?
Ils appellent ça de l'out-migration. Hein? Entre 2020 et 2025, 1 million de personnes sont parties de New York.
Wow.
1 million.
Et donc, c'est pas ceux qui créent pas de la richesse, là, tu sais. Si vous voulez être sûr d'être
pauvre,
faites fuir les riches.
Si tu fais 40 000 par année, tu payes des taxes. Peut-être t'en payes pas. Ouais. C'est pas toi qui payes pour l'infrastructure. C'est ceux qui font 1 million, 2 millions, 3 millions, milliard qui payent des taxes. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Puis il y a l'évasion des taxes de certains milliardaires. Ouais. C'est un autre sujet. Puis c'est la même chose en Californie. L'out-migration, là, c'est 817 000 personnes en 2024.
Wow!
Et,
un an?
Oui. Oui, c'est ça. Et donc, c'est pas rien. Puis le problème aussi, c'est que dans les États bleus, on va se le dire, il n'y a rien qui marche. Ils taxent, puis il n'y a rien qui marche. Ici, en Californie, on peut le sentir. Je te donne juste en terminant l'exemple que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup parler. Dans un État où 1 % des contribuables californiens payent la moitié de toutes les taxes fiscales, les revenus fiscaux de l'État, 1 % des contribuables.
Wow.
C'est ceux qu'on veut chasser, là. Hein? Ça, c'est beau, hein? Ça va faire un État
qui
va vraiment
payer,
bien marcher.
Ben oui, exactement.
Mais je prends un exemple. Le fameux train à haute vitesse de Newsom, qui devait coûter 33 milliards.
Ouais.
Il y a déjà 18 milliards d'investis US là-dedans. Le nouveau budget total avoisinerait les 126 milliards.
Wow.
Et le train, le premier tronçon, va jusqu'à Bakersfield, va être prêt, dit-on, en 2033, si on y croit. Mais c'est complètement inutile parce que de partir de LA puis aller à Bakersfield, là, tu te retrouves à peu près au quart, au tiers du chemin vers San Francisco, la destination finale. Personne ne va prendre ce train-là. Fait que c'est vraiment... Tu pourrais faire un film comique avec ça, là, tu sais, mais...
Puis ça résonne. Puis il faut se quitter, Catherine. On est en train de manger notre temps, mais oui. Ça résonne parce que ce que tu viens de dire, on est en train de s'en faire un projet de train avec Mark Carney. Ça va être beau.
Ben c'est pour ça que je l'ai on pourra en parler à un autre moment donné.
Absolument. On reprend la discussion la semaine prochaine. Merci, Catherine. C'est intéressant. Merci en tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Salut, bye.
Salut.
Catherine Salut. Loubier. Aïe, aïe, aïe. Tabarouette. J'ai mal à la tête.
Faut être patient.
Oui, je suis patient, oui, il me semble. Oui, faut être patient. Attends, dans 40 ans.
Ouellette. En direct.
Radio X.